Chapitre 9. Le mont Zeus. Le satellite d'observation Europa 6, sur orbite depuis près de 15 ans, avait largement dépassé ses prévisions de vie. Quant à savoir si cela valait la peine de le remplacer, c'était le sujet d'innombrables débats dans la communauté scientifique de Ganymède. Il était équipé des habituels instruments d'information complétés par un système pratiquement caduque de transmission d'images. Mais bien que toujours en parfait état de marche, il n'avait rien d'autre à montrer d'Europe qu'une couverture de nuages uniformes. L'équipe scientifique surmenée de Ganymède visionnait rapidement les enregistrements une fois par semaine et retransmettait à la Terre l'information brute. Dans l'ensemble, les savants avouaient qu'ils seraient plutôt soulagés quand Europa 6 expirerait et que ce torrent d'informations sans intérêt serait enfin tari. Et voilà que soudain, pour la première fois depuis des années, il se produisait quelque chose de passionnant.
Orbite 71-934,
dit l'astronome en chef adjoint qui avait appelé Vandenberg dès l'évaluation des derniers renseignements.
Arrivant de la face nocturne et se dirigeant droit sur le mont Zeus. Mais vous n'allez rien voir avant 10 secondes.
L'écran était complètement noir. Pourtant, Vandenberg pouvait imaginer le paysage gelé passant sous la couche de nuages 1000 km plus bas. Dans quelques heures, le lointain soleil y brillerait, car Europe tournait autour de son axe en 7 jours terrestres. La face nocturne aurait dû être appelée en réalité face crépusculaire, parce que pendant la moitié du temps, elle recevait assez de lumière, mais aucune chaleur. Néanmoins, le nom inapproprié était resté à cause de sa valeur émotionnelle. Europe connaissait l'aurore, le lever du soleil, mais jamais le lever de Lucifer. Et l'aurore arrivait à présent, accélérée 1000 fois par la sonde ultra-rapide. Une bande vaguement lumineuse traversa l'écran alors que l'horizon émergeait des ténèbres. L'explosion de lumière fut si subite que Vandenberg crut presque regarder l'éclat d'une bombe atomique. En une fraction de seconde, elle passa par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis elle devint d'un blanc pur quand le soleil bondit au-dessus de la montagne, et disparut au moment où les filtres automatiques entrèrent en action.
C'est tout. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'opérateur en service sur le moment. Il aurait pu pointer la caméra vers le bas et avoir une bonne image de la montagne pendant le survol. Mais je savais que vous voudriez voir ça, même si ça réfute votre hypothèse.
Comment cela ?
Demanda Vandenberg, plus perplexe qu'irrité.
Quand vous regarderez ça au ralenti, vous comprendrez. Ce magnifique effet d'arc-en-ciel, ce n'est pas atmosphérique, c'est provoqué par la montagne elle-même. Seule de la glace pourrait faire ça. Ou du verre, ce qui ne paraît pas très vraisemblable.
Pas impossible. Les volcans produisent du verre naturel, mais en général, il est noir.
Bien sûr.
Oui.
Je ne veux pas m'engager avant d'avoir étudié tous les renseignements, mais à mon avis, cela pourrait être du cristal de roche, un quartz transparent. On en fabrique de superbes prismes et des lentilles. Y a-t-il des chances d'obtenir d'autres observations ?
Hélas, non. Celle-ci était un pur hasard. Le soleil, la montagne et la caméra, tous alignés au bon moment. Cela ne se reproduira plus en 1000 ans.
Merci quand même. Pouvez-vous m'envoyer une copie ?
Rien ne presse. Je dois partir maintenant pour un voyage d'études à Périne, alors je ne pourrai l'examiner qu'à mon retour,
dit Vandenberg avec un petit rire bref, comme pour s'excuser.
Vous savez, si c'était vraiment du cristal de roche, ça vaudrait une fortune.
Ça pourrait même résoudre notre problème de la balance du budget.
Mais cela, naturellement, était du domaine du fantastique pur. Quelles que soient les merveilles ou les trésors recelés par Europe, l'accès en était interdit à la race humaine par le dernier message de Discovery. 50 ans plus tard, aucun signe n'indiquait que l'interdiction eût été révoquée.